Et bonsoir à tous, il est 20h01, vous écoutez Corne de Gazette sur les fréquences 93.3 de Radio Campus Clermont. Nous sommes le dimanche 19 juin et ce soir sur Corne de Gazette, c'est Géopolitique sans langue de bois. Puisque nos équipes ont interviewé pour vous et en exclusivité Isabelle Facon, maître de conférence à l'école polytechnique et directrice adjointe à la Fondation de la Recherche Stratégique, elle est spécialiste des politiques de défense et de sécurité russe. Au micro de Corne de Gazette, elle répond à nos questions sur la crise ukrainienne. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre Instagram Corne de Gazette. Abonnez-vous, on attend vos réactions et questions. Vous pouvez également profiter de nos podcasts sur Spotify. Corne de Gazette Radio, la culture avec un grand C et un petit T, c'est tout de suite. Très bonne interview.
Bonjour Isabelle Facon, bienvenue, merci d'avoir accepté cette interview. Vous tiendrez une conférence sur les ambitions géopolitiques de la Russie à l'épreuve de la guerre en Ukraine à la Maison des sciences humaines de Clermont-Ferrand. Vous êtes maître de recherche à la Fondation stratégique mais aussi spécialiste des politiques de sécurité et de défense russes. Vous êtes aussi maître de conférence à l'école polytechnique où vous dirigez le séminaire géopolitique de l'Eurasie, ainsi que auteur de la nouvelle armée russe, le chemin de la puissance ou encore pouvoir et industrie de défense en Russie. Comment allez-vous, Isabelle Facon ?
Je vais très bien, merci beaucoup.
Alors, première question. Vous avez dirigé une analyse pour le Parlement européen en 2017 sur le défi stratégique que pose la Russie à l'Union européenne. Est-ce que vous pourriez revenir sur les points importants, les points saillants de cette étude, s'il vous plaît ?
Alors, en fait, c'était une étude qui reposait beaucoup sur les documents qui présentaient la vision russe de la sécurité. Et ce que je montrais à travers cette étude, c'est qu'il y avait beaucoup d'incompatibilité de vision entre la façon dont la Russie considérait le paysage de sécurité européen et international, dans lequel elle estimait ne pas avoir sa juste place et ne pas voir ses intérêts pris en considération. Et de l'autre côté, des pays, notamment occidentaux, ne pouvant pas finalement se reconnaître dans les postulats de la Russie sur la sécurité internationale. Et j'essayais d'expliquer aussi comment la Russie essayait de redévelopper ses outils militaires, considérant que l'ordre international ne lui était pas très favorable et recelait beaucoup de danger. Donc il y avait une partie assez importante sur la reconstitution progressive et difficile aussi des outils militaires russes que Poutine a toujours considérés comme des instruments de puissance privilégiés.
Alors du coup, vous parliez un peu des relations internationales, on va dire, avec la Russie. Est-ce que vous pourriez parler brièvement de la relation entre la France et la Russie ? Y a-t-il un dilemme de sécurité qui s'installe suite aux récents événements, comme on a pu le voir en Ukraine ? Est-ce que la France peut réellement faire quelque chose en usant de son influence pour trouver une solution viable à long terme au conflit ?
Alors c'est vrai que la France a peut-être moins de leviers qu'elle a pu en avoir dans la relation avec la Russie. C'est vrai que pendant longtemps, dans les années post-guerre froide, peut-être aussi à cause de l'héritage réel ou présumé, parce que parfois il est un peu fantasmé, de la politique que menait la France sous Charles de Gaulle à l'égard de l'Union soviétique, les Russes ont longtemps pensé que finalement une porte d'entrée pour avoir ses intérêts mieux pris en compte en Europe, tels qu'elle les perçoit, eh bien c'était la France, parce que la France avait toujours l'idée d'une Europe plus autonome en matière de sécurité, moins dépendante des États-Unis, etc. Il y avait cette idée en Russie que donc la France, puisqu'elle était motivée par ces considérations-là, eh bien pouvait être utile à la Russie. Or, ces derniers temps, surtout depuis la présidence Sarkozy, quand la France est rentrée à nouveau dans les structures militaires intégrées de l'OTAN, les Russes ont progressivement considéré que la France avait perdu de sa personnalité et constate une réalité, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, pour tenant compte de son poids moyen, inscrit son action internationale dans le cadre de ses partenariats au sein de l'Union européenne et de son partenariat avec les pays de l'OTAN. Et vu de Moscou, ça veut dire qu'aujourd'hui, la France n'a plus une politique indépendante. Ce n'est pas forcément la réalité. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on pourrait démentir cela. Mais pour les Russes, du coup, la France a beaucoup perdu de son intérêt du point de vue de son influence éventuelle en Europe.
Alors du coup, vous parlez un peu que pour la Russie, la France a perdu un peu de sa personnalité. Alors doit-on la considérer comme une vraie menace à présent pour l'OTAN et pour la France? Est-ce que nous sommes passés un peu pour des ennemis à présent pour la Russie?
Alors, pour la Russie, ça fait déjà un long moment que la Russie cultive l'idée que l'Occident collectif, hein, c'est la notion du ministère russe des Affaires étrangères, et donc ça veut dire qu'en fait, l'Union européenne, l'OTAN, les États-Unis, les pays européens à titre individuel sont tous dans une même perspective de ne pas prendre en compte les intérêts de la Russie. Ça fait depuis très longtemps, mais encore de manière encore plus marquée depuis 2014. Et donc il est assez certain que, comme vous le savez, l'OTAN va bientôt redéfinir son concept stratégique. C'est un petit peu sa doctrine. Hein, et on peut s'attendre à ce que, effectivement, aujourd'hui, la Russie soit présentée dans ce nouveau concept stratégique comme l'adversaire principal. Il va certainement y avoir des mesures supplémentaires de renforcement de la défense des États membres, notamment ceux qui sont considérés comme les plus exposés, donc ceux qui sont à l'Est et ceux qui sont en mer Noire. Et donc, on est là aujourd'hui, effectivement, dans une logique où chacun estime que l'autre est un des adversaires principaux.
Parce que du coup, vous nous parliez du renforcement un peu de l'armement. Ce qu'on peut voir un peu qui est un peu paradoxal, c'est que la Russie, qu'on peut considérer un peu comme un danger, nous montre un peu des armes futuristes très complexes, enfin très poussées. Et sur certaines images qu'on a pu voir, par exemple en Ukraine, on voit des tanks russes assez vieux qui datent de la période de l'URSS. Ils doivent circuler en immense colonne, du coup, ce qui les expose énormément. Et ils sont très mal entretenus, qui s'abîment assez facilement. Alors, est-ce vraiment le vrai arsenal russe ou simplement de la propagande de la part de Moscou où ces derniers ne nous montrent pas tout?
Alors, je pense que ce que l'on voit surtout, c'est une armée qui avait entamé sa modernisation et même sa reconstruction, en fait, assez tardivement. Hein, c'est-à-dire, ça a commencé au tournant des années 2000-2010, après la guerre en Géorgie, où finalement, l'armée russe, certes, avait atteint ses objectifs stratégiques, mais n'avait pas brillé par ses performances opérationnelles, puisqu'on avait vu justement des problèmes d'équipement, des problèmes d'organisation, toutes sortes de soucis. Et donc, ça avait été le point de départ d'un vrai effort de réforme et de restructuration de l'outil militaire russe. Simplement, c'était un effort qui venait sur une base assez négative. Ça faisait 15 ans de sous-investissement dans les forces armées russes. Et il y a eu un effet Potemkin, en quelque sorte. C'est-à-dire que, bien sûr, la Russie a fait des progrès en matière d'hypersonique, elle a su moderniser ses forces nucléaires stratégiques, elle a amélioré ses performances en matière de missiles de croisière à longue portée, tout ça, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que le rééquipement des forces, il y a des trous à la raquette nécessairement, parce que les budgets, même s'il y a eu un effort considérable, ils restent quand même assez limités, en tout cas, vu l'ampleur du chantier. Qu'était la réforme de l'armée russe. Et puis, il y a aussi beaucoup de corruption, ce qui fait qu'une partie de l'argent qui est consacré à la réforme de l'armée, en fait, et à la réforme des équipements militaires, est en fait passé dans d'autres poches que la modernisation des forces russes. Donc, c'est ça que l'on voit aujourd'hui. Et puis, on voit aussi des déficiences qu'on connaissait déjà, des déficiences chroniques cette armée russe, notamment au niveau des ressources humaines, avec des soldats mal entraînés, pas suffisamment nombreux. Et puis, on voit surtout que l'armée russe est engagée dans cette opération en se trompant, finalement, sur ce qu'allait être la nature de cette opération. Et donc, forcément, elle était mal calibrée d'emblée. Donc, ce sont tous ces facteurs-là qui donnent cette impression d'un vrai contraste entre l'image qu'on avait fini par avoir de l'armée russe, qui était sans doute exagérée dans ses grandes performances et sa modernisation, et ce que l'on constate sur le terrain.
D'accord. Alors, on peut voir un peu, ça expliquerait du coup ce qu'on voit. Mm-hmm. Alors du coup, est-ce qu'on peut y venir au fait que Vladimir Poutine est sans limite, que c'est un peu à considérer ou n'a-t-il pas connaissance forcément de ce qui est réellement le terrain, on va dire ?
Alors c'est un petit peu compliqué parce que bon voilà, on est dans un régime autocratique où il y a une très forte personnalisation du pouvoir. Visiblement ces dernières années, Vladimir Poutine s'est beaucoup plus isolé. On avait vu déjà que son équipe rapprochée se restreignait de plus en plus et qu'en plus elle faisait plutôt la part belle à des personnalités qu'on pourrait qualifier de dures, plus les faucons en quelque sorte du régime russe, qui ne voyaient pas forcément que des inconvénients à une relation de plus en plus tendue avec les pays occidentaux et un pays de plus en plus vivant un peu plus en autarcie en quelque sorte et moins connecté au reste du monde. Après sur l'Ukraine, c'est vrai qu'on a le sentiment que peut-être le président Poutine s'est fait sa propre idée. Vous vous souvenez peut-être que cet été il avait écrit un long article sur ce que représentait l'Ukraine, l'idée que c'était en fait une construction artificielle, etc. Donc il a également peut-être par isolement eu une idée de plus en plus spécifique de ce qu'était la relation avec l'Ukraine et la façon dont l'Ukraine aussi considérait la Russie. Et il n'est pas impossible que soit bien des gens lui aient fait remonter des informations qui n'allaient pas dans le sens de son analyse, mais qu'il n'ait pas voulu les voir, soit qu'on n'ait pas osé porter à sa connaissance certaines choses. Ça peut arriver dans ce genre de régime où les choses se resserrent, sont très personnalisées, très recentrées. Donc c'est très mystérieux. L'histoire nous dira peut-être un peu plus sur tout ça. Mais voilà, c'est très certain que c'est en partie le produit d'un régime de plus en plus autoritaire et de plus en plus persuadé qu'il y a des ennemis de l'extérieur qui ne visent qu'à miner les intérêts de la Russie.
D'accord. Alors, au vu de ce que vous venez de nous dire, est-ce qu'il y a, on va dire un peu au vu de la situation aussi actuelle en Ukraine, est-ce qu'un retour en arrière est possible de la part de Vladimir Poutine pour mettre un terme à l'escalade de la violence? Un certain abandon de la part de la Russie ou un terrain d'entente au Donbass, par exemple.
Alors, d'un côté, on peut dire que les autorités russes en ont déjà un peu rabattu sur les objectifs initiaux, puisque, comme vous le savez, il y a quelques semaines, finalement, l'offensive sur Kiev a été interrompue et le pouvoir russe a recentré les objectifs sur le Donbass et l'idée de ce corridor, hein, finalement, terrestre entre la Crimée et le Donbass. Donc il y a déjà eu une ambition réduite par rapport à ce que initialement le pouvoir russe voulait faire, en toute hypothèse, établir à Kiev un pouvoir à la main de Moscou, un petit peu sur le mode Biélorussie, quelque chose de ce genre. Je pense que c'était un peu ça qui était escompté. Du coup, j'ai perdu la question. Alors, en revanche, c'est vrai aussi que Vladimir Poutine pourrait présenter un certain nombre de choses comme des victoires. C'est-à-dire que dans le régime tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure, on peut aussi organiser les choses, arranger la réalité et les vérités pour dire, voilà, on a obtenu certaines victoires. On a déjà des éléments, d'ailleurs, dans le discours russe, hein, puisque vous vous souvenez que cette opération militaire spéciale, puisque ce n'est pas une guerre, c'est une opération militaire spéciale, d'après les autorités russes, elle était menée au nom de deux choses, la démilitarisation de l'Ukraine et la dénazification de l'Ukraine. Et le pouvoir russe pourrait très bien faire valoir que, sur ces deux axes, il a déjà obtenu quelques résultats. Hein, il pourrait parler du bataillon Azov qui finalement a été défait à Mariupol après de longues semaines de résistance. Donc là, ce serait pour la partie dénazification, puisque vous savez que le bataillon Azov est rattaché à cette idée de présence de groupes néo-nazis en Ukraine. Et puis la démilitarisation, c'est-à-dire que la Russie a quand même procédé à des frappes assez précises, parfois avec certains des systèmes ultra-modernes dont vous parliez tout à l'heure, contre des infrastructures militaires ukrainiennes. En revanche, je ne vois pas, par exemple, le président russe décider que finalement on abandonne le Donbass. Je pense qu'il va falloir qu'il fasse valoir quelques gains territoriaux hors du côté ukrainien, peut-être parce qu'on est galvanisé aussi par la résistance dont et l'armée et la population ont su faire preuve, des contre-offensives aussi assez efficaces. Eh bien aujourd'hui, il y a cette idée qui s'installe du côté ukrainien comme de certains pays partenaires de l'Ukraine, que l'Ukraine peut gagner cette guerre. Donc pour l'instant, pas plus du côté ukrainien que du côté russe, on est dans une disposition à parler de la paix. D'ailleurs, si on regarde le processus de discussion discussion diplomatique qui était en cours, on ne peut pas dire qu'il avance beaucoup ces derniers temps.
Parce que du coup, la question qu'on peut se demander tout naturellement, c'est qui accompagne Vladimir Poutine dans ses prises de décision ? Y a-t-il quelqu'un capable de le faire changer d'avis ? Parce que sous certaines menaces qui ont l'air très inquiétantes, va-t-il vraiment du coup les mettre à exécution, ou est-ce que des gens sont en fait en réalité derrière sans qu'on nous le dise, sont un peu dans l'ombre et évitent justement ce genre de problème?
Je vois que vous posez les mêmes questions que moi. Si je suis honnête, je ne peux pas vous dire que j'en sais plus long que vous sur qui est derrière même la décision qui a été prise. On peut supposer quand même que le ministre de la Défense et le chef de l'état-major n'étaient pas complètement surpris par cette décision. En revanche, on a vraiment eu l'impression par différents indices qu'une grande partie des autorités russes, le Parlement également, sans parler des oligarques, une bonne partie de la classe politique, des élites politiques et économiques russes ont été vraiment surprises par cette décision. Alors si vous avez en tête la question des armes nucléaires, c'est vrai que Vladimir Poutine à plusieurs reprises les a évoquées, soit en les nommant, soit en les nommant pas. Mais bon, il y a cette idée vraiment d'accompagner cette action militaire de cette menace nucléaire. Ça vise évidemment les pays occidentaux, hein, en rappelant que le rapport de force, il faut qu'ils tiennent compte de cela. C'est aussi pour justement plutôt encourager les pays occidentaux à rester dans la position qui était la leur jusqu'ici, c'est-à-dire de ne pas devenir des co-belligérants, même si on peut se demander si aujourd'hui la Russie ne considère pas que les livraisons d'armes massives ne font pas de nous des pays co-belligérants. Mais par exemple, les occidentaux n'ont pour l'instant pas accédé à la demande répétée des autorités ukrainiennes d'établir une zone d'interdiction aérienne, parce que là, ça ferait de nous, effectivement, de l'OTAN, une co-belligérante, en quelque sorte. Donc, évidemment, les Russes ont cette arme. Ils la mettent régulièrement dans le panorama pour aussi inquiéter les opinions publiques européennes, en espérant qu'à terme, cela puisse exercer une pression sur les gouvernements des pays européens, dans le sens d'une modération, soit sur les sanctions, soit sur les livraisons d'armes. Mais c'est beaucoup une arme psychologique. Et c'est vrai qu'on suppose quand même qu'au niveau de la prise de décision sur l'éventuel recours à l'arme nucléaire, là, il y a peut-être des garde-fous et que les militaires, peut-être, n'accéderaient pas à cette demande. En tout cas, le système, d'après ce que l'on en sait, le système de prise de décision sur le recours au nucléaire est plutôt collégial. Donc ça peut être un facteur rassurant. On peut supposer aussi que les Russes, qui sont quand même dans des logiques de réflexion sur la dissuasion depuis de nombreuses années, connaissent les codes, les règles de cela et donc les dangers d'un éventuel recours à l'arme nucléaire. Et puis enfin, on n'a pas vu beaucoup de mouvements qui pourraient laisser penser qu'il y a une évolution en termes opérationnels de la posture russe vers le recours à l'arme nucléaire, y compris l'arme nucléaire tactique.
Alors du coup, j'aimerais juste revenir sur un propos que vous aviez dit sur France Culture. Vous parliez le 12 février, à la veille des hostilités entre l'Ukraine et la Russie, d'une volonté de changer de régime de la part de Vladimir Poutine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cela ?
De changer de régime Je me souviens plus ce que j'ai dit ce jour-là, excusez-moi.
Dans le sens où on arrive dans une phase un peu d'évolution pour la Russie. J'ai un peu du mal à comprendre en fait ce que vous vouliez dire.
Oui, mais je me souviens pas ce que j'ai dit. C'est pas un souci, mais quand je parle de changement de régime en Russie, la plupart du temps, c'est pour dire qu'en fait, pour les autorités russes, mais je sais pas si c'est ça que j'ai dit ce jour-là, pour les autorités russes, parmi les menaces qui pèsent sur la Russie, il y a cette notion de changement de régime. Parce que les Russes ont une lecture assez systémique de l'action des pays occidentaux, mais surtout les États-Unis, depuis la fin de la guerre froide, à commencer par le Kosovo, avec les frappes contre la Serbie, les frappes de l'OTAN contre la Serbie. Il y a également eu les révolutions de couleur, qui généralement ont été soutenues politiquement par les pays occidentaux, qui soutenaient les manifestants contre les pouvoirs en place. Vous rajoutez rajouter à cela l'Irak, où là aussi, changement de régime. Ensuite, la Libye, même les printemps arabes, d'une certaine façon, ont été rattachés à cette affaire-là. Et si vous lisez aujourd'hui la doctrine militaire russe, et la fameuse doctrine, Gerasimov le mentionne également, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément besoin de faire vraiment la guerre. On peut soutenir des militants ou des forces d'opposition progressivement atténuer finalement l'emprise du pouvoir, et s'il le faut, on peut porter l'estocade à travers des frappes précises contre l'État en question. Et c'est vrai que Vladimir Poutine, lui, est très axé sur cette menace-là, a fortiori depuis l'affaire libyenne en 2011, parce que ça a coïncidé en plus à un moment où le régime russe a senti une menace de l'intérieur, parce qu'il y a eu des manifestations à l'occasion de la séquence législative présidentielle. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Et c'est à partir de là que le pouvoir russe s'est durci et que cette question de la menace d'un changement de régime est devenue un petit peu un fil conducteur de la politique étrangère de la Russie, en tout cas vis-à-vis des pays occidentaux. Mais c'est aussi un paramètre qu'elle utilise dans ses relations avec les pays avec lesquels elle voudrait tisser des liens plus importants. Il y a beaucoup de régimes d'Asie centrale qui peuvent aussi avoir des craintes sur le sujet du changement de régime. Il y a des pays au Moyen-Orient qui ont également une ligne assez proche de la Russie sur ce sujet-là, en Afrique également. Et donc c'est devenu aussi, d'une certaine façon, un argument supplémentaire dans l'arsenal de la Russie pour se faire des amis, si l'on peut dire, sur la scène internationale. Mais je ne sais pas du tout si c'était ça que j'avais dit dans cette interview de février. Merci.
Alors du coup, en parlant un peu de l'Europe de manière générale, oui. Comme on a pu le voir un peu cette semaine, suite aux demandes de la Finlande et de la Suède d'intégrer l'OTAN, oui. La Russie leur a en quelque sorte coupé les vivres. Est-ce que c'est la suite des opérations pour le Kremlin ?
La suite des opérations couper les vivres ?
Après l'Ukraine, par exemple, oui. Est-ce que c'est un peu l'objectif de recréer un peu le grand bloc de l'URSS ou...
Alors, c'est vrai que Vladimir Poutine a dit en son temps que l'éclatement de l'URSS avait été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Mais il avait aussi ajouté, mais ça on oublie de le préciser, que celui qui pensait à reconstituer l'URSS n'avait pas de tête, en fait, parce que ce serait d'abord trop coûteux pour la Russie, trop compliqué, etc. Donc je ne pense pas qu'il y ait l'idée de recréer un bloc, mais c'est vrai que la Russie revendique dans l'ensemble de l'espace ex-soviétique, une sphère d'influence. C'était la phrase de M. Medvedev qui a été président de 2008 à 2012, qui avait parlé de sphère d'intérêt privilégié. Et donc c'est ça que la Russie veut qu'on lui reconnaisse, une sphère d'intérêt privilégié dans l'ensemble de cet espace. Certains pays sont plus déférents à l'égard des intérêts que revendique la Russie dans cette zone-là, les pays d'Asie centrale, parce qu'ils comptent sur la Russie pour assurer leur sécurité, l'Arménie, parce qu'elle est elle-même assez dépendante de la Russie pour sa sécurité et dans une certaine mesure pour sa santé économique. Mais il y a d'autres pays comme justement l'Ukraine, mais l'Ukraine qui occupe une place vraiment spécifique dans les représentations historiques, géostratégiques de la Russie, la Moldavie et la Géorgie qui, de tout temps, ont plutôt regardé vers l'Ouest, parlé d'intégration dans les structures euro-atlantiques, en tout cas pour l'Ukraine et la Géorgie. Et ça, la Russie a du mal à le supporter. On peut supposer qu'elle a du mal à envisager ces pays comme étant pleinement indépendants. Et en tout cas, elle considère qu'ils doivent avoir des politiques qui ne soient pas inamicales à son égard, parce que sinon c'est un problème pour son statut, c'est un problème pour sa sécurité. Et donc, quand l'Ukraine et la Géorgie ont été, il a été dit en 2008 qu'elle pourrait un jour rejoindre l'OTAN, c'était lors du sommet de l'OTAN à Bucarest, la Russie a commencé à se crisper. Parce que pour elle, ça voulait dire qu'un jour, ces pays pourraient rentrer si les États-Unis le voulaient. Parce que la Russie a une vision de l'OTAN qui n'est pas tout à fait exact, c'est-à-dire qu'elle considère que c'est une alliance dominée par les États-Unis. Alors, on ne peut pas nier qu'ils ont une forte traction au sein de cette alliance, mais la règle du consensus existe, et on savait qu'au sein de l'OTAN, ça allait être compliqué d'obtenir un consensus sur l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie. Donc aujourd'hui, la Russie, elle a plutôt contribué à consolider l'alliance atlantique, hein, d'après ce que j'observe, puisque non seulement il y a quand même une belle unité qui est affichée au sein de cette alliance, dont Emmanuel Macron disait il n'y a pas si longtemps qu'elle était en état de mort cérébrale. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que la Russie lui a redonné un petit coup de santé politiquement. On voit qu'il y a quand même ce renforcement de la présence OTAN dans les pays qui sont les plus exposés à ce qui est vu aujourd'hui beaucoup plus largement comme une menace géopolitique et militaire russe. Et puis aujourd'hui, cette demande d'adhésion de la Finlande et de la Suède. Alors pour l'instant, la Turquie pose quelques problèmes, mais symboliquement, pour la Russie, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une évolution qui aille dans le sens des intérêts tels qu'elle les a affichés ces dernières années.
Alors le problème, est-ce que du coup, la Russie qui essaye un peu de s'imposer en attaquant l'Ukraine, en essayant de récupérer un peu ce qui lui appartient, en quelque sorte, qui a été un peu condamnée suite à ces exactions par le monde entier ? Et a subi des lourdes sanctions économiques qui sont mises à pleuvoir jusqu'à exclure du système bancaire international. Comment la Russie va s'en sortir dans toutes ces sanctions économiques qui l'empêchent d'avoir un certain quasi-contact économique avec l'extérieur ? Comment la population un peu en pâtit
Alors, la population le ressent déjà parce qu'elle peut beaucoup moins voyager vers l'Europe, hein, puisque les espaces aériens ont été fermés dans beaucoup de cas. Il y a beaucoup de sociétés, de compagnies occidentales qui ont quitté la Russie. Ce que vous avez évoqué sur le système SWIFT, avec l'exclusion de beaucoup de grandes banques russes de ce système SWIFT. Donc les Russes le sentent déjà dans leur quotidien, avec également une inflation extrêmement importante. Et pour l'instant, le pouvoir compense d'abord à travers une propagande sur la façon de présenter cette guerre. Évidemment, la propagande de la Russie présente tout ça comme une guerre juste. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est en plus une propagande qui est enracinée de longue date. C'est-à-dire qu'à la télévision russe, depuis de très nombreuses années, vous entendez que l'Occident cherche à nuire à la Russie, que l'Ukraine est en train de devenir une forme d'anti-Russie sous l'influence des pays occidentaux, etc. Donc pour les Russes, pour l'instant, ça continue à cristalliser quand même un certain sentiment de ralliement auprès des autorités russes, également à cause des boycotts, en fait, boycotts culturels, boycotts sportifs, qui sont évidemment mis en exergue par les autorités russes pour dire, vous voyez bien, c'est une guerre contre la Russie, mais la Russie comme pays, comme nation, comme civilisation, en quelque sorte. Une vraie difficulté pour la Russie, ça va être de diversifier aussi ses marchés énergétique, parce que nous, ça va être dur de consommer de moins en moins d'énergie russe, ça c'est tout à fait certain, mais c'est vrai aussi que pour la Russie, qui avait commencé à s'ouvrir vers les marchés asiatiques, il va falloir du temps avant qu'elle puisse vraiment compenser ce qu'elle vendait côté européen, en tout cas pour le gaz, et il n'est pas du tout certain que les clients asiatiques, la Chine en tête, voudront payer le même tarif que celui que les Européens payaient pour le gaz, enfin payent toujours, mais un jour ne paieront plus pour le gaz russe. Donc ça, c'est une difficulté qui s'ancre dans un temps plus long. Et puis ce que l'on sait moins, c'est que la Russie est très dépendante des importations de composants électroniques, semi-conducteurs, même des machines-outils performantes, puisque en fait, en Russie, ce sont des industries qui ont vraiment beaucoup eu de mal à se moderniser. Et donc aujourd'hui, la Russie, elle avait déjà eu un petit aperçu, parce qu'après 2014, l'annexion de la Crimée, il y avait déjà des sanctions qui avaient été prises. Mais visiblement, elle n'avait pas eu le temps ou pas assez travaillé à compenser cet accès plus limité à un certain nombre de composants, notamment composants électroniques, tout ça. Et là, aujourd'hui, ça va lui poser un véritable problème. Alors, quand on regarde bien, par ailleurs, la Russie n'est pas si isolée que ça, dans le sens où les sanctions, évidemment, les Occidentaux en ont pris. le Japon des pays, en fait, amis et partenaires alliés même de l'Occident, des pays occidentaux, en ont pris. Par exemple, le Japon, la Corée du Sud, on pourrait citer d'autres exemples. Mais en revanche, beaucoup d'autres pays qui pèsent assez lourd, hein, si, en tout cas si on fait l'addition de leur poids économique, de leur poids démographique, comme l'Inde, la Chine, beaucoup d'autres, la Turquie, membre de l'OTAN, tous ces pays-là ne prennent pas de sanctions pour l'instant à l'encontre de la Russie. Donc on peut supposer, mais évidemment il faudrait regarder secteur par secteur, qu'il y aura quelques voies qui permettront de compenser certains des effets des sanctions occidentales. Sanctions occidentales, mais c'est certain que la Russie, en termes de modernisation, par exemple, de son appareil militaire, là, tout est fait pour qu'elle ait un accès beaucoup plus difficile à des composants qui sont essentiels. Donc on peut supposer que la reconstitution, par exemple, des stocks de missiles précis va être un peu difficile pour Moscou dans les prochains temps. Mais notons qu'elle n'est pas quand même totalement isolée, y compris du point de vue des sanctions sur la scène internationale.
Alors du coup, est-ce que on peut dire que c'est une solution miracle, est vraiment efficace contre un pays, on va dire, qui est impliqué dans une guerre et qui matraque un peu sa population à coups de propagande? Est-ce que du coup, ça va réellement avoir un impact sur des gens qui vont être un peu matrixés par tout cela?
Alors, solution miracle, tout dépend de comment on définit l'objectif recherché. Si l'idée, c'était que Poutine rentre à la maison avec ses soldats et qu'il mette fin à la guerre en disant « bon, je me suis trompé », je rentre à la maison. Là, évidemment, et ce n'est pas une nouveauté, que les sanctions, souvent, l'objectif, il n'y a pas d'objectif aussi clair à ces sanctions. L'objectif, je crois, c'est plutôt d'affaiblir la capacité de la Russie de, sur ses piliers, finalement, de puissance les plus imposants, pour, justement, à terme, éroder sa capacité d'action sur la scène internationale, parce que, en tout cas, vu des Occidentaux, ces dernières années, cette action de la Russie sur la scène internationale, elle s'est plutôt illustrée sur le mode de la nuisance, de l'ingérence et de l'action militaire. Les piliers visés, c'est l'armement, l'industrie d'armement, et ça c'est depuis 2014, donc il y a aussi un effet cumulatif des différentes sanctions, et puis aussi l'énergie, parce que bien sûr que la Russie a beaucoup de ressources énergétiques, mais par exemple pour ce qui est exploitation des ressources de l'Arctique, eh bien, elle a besoin de technologies étrangère. Et là, elle va avoir quelques difficultés, même si elle pourra regarder du côté de certains partenaires asiatiques. Ça va être long et difficile à compenser. L'idée, c'est à terme de réduire ce qui est perçu comme la capacité de nuisance de la Russie sur la scène internationale.
D'accord. Alors enfin, une dernière question pour finir, un peu pour résumer. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre conférence en quelques mots? Pour les auditeurs qui écoutent l'interview, peut-être post-conférence, pour leur teaser un peu ce que c'était.
Alors, justement, il y a beaucoup de choses dont on a parlé à l'instant que je vais revisiter. Donc, l'idée, c'est pas de parler du conflit aujourd'hui, où on est, le grignotage du Donbass, les contre-offensives ukrainiennes, etc. Ça va être de visiter certains fils conducteurs de la politique étrangère russe ces dernières années, qui finalement ont mené à la décision de mener cette opération militaire spéciale, selon la terminologie du Kremlin. Donc plutôt contextualiser en évoquant notamment ce que représente l'Ukraine dans la perspective russe, comment l'Ukraine, dans les griefs que la Russie a accumulés à tort ou à raison dans ses relations avec l'Occident, où se trouve l'Ukraine dans tout ça comment ça induit cette décision d'une solution militaire, voir comment finalement ça va remettre ou pas en cause ce que l'on pourrait considérer comme certains succès de la Russie de Poutine sur la scène internationale, parce que ce soit selon des modalités qui nous plaisent ou non, on ne peut pas nier que Poutine avait réussi à imposer l'idée d'un retour de la Russie sur la scène internationale, Moyen-Orient, Afrique, même Asie dans une certaine mesure. On avait l'impression que la Russie était un petit peu partout, qu'elle pesait sur tous les grands dossiers, etc. Là, aujourd'hui, on peut s'interroger sur, si cette décision de guerre en Ukraine ne va pas compromettre cet héritage dont pouvait quand même se prévaloir Vladimir Poutine, même si c'est un héritage que nous considérions comme plutôt négatif.
Merci beaucoup en tout cas Isabelle Facon d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes spécialiste de la politique étrangère et de sécurité russe et directrice adjointe à la Fondation de recherche stratégique. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup de la part de Radio Campus et de l'équipe de Corne de Gazette, une émission qui vise à promouvoir l'art culture. Je vous remercie.
Merci à vous.
Et bonsoir à tous, il est 20h01, vous écoutez Corne de Gazette sur les fréquences 93.3 de Radio Campus Clermont. Nous sommes le dimanche 19 juin et ce soir sur Corne de Gazette, c'est géopolitique sans langue de bois. Puisque nos équipes ont interviewé pour vous et en exclusivité Isabelle Facon, maître de conférence à l'école polytechnique et directrice adjointe à la Fondation de la Recherche Stratégique, elle est spécialiste des politiques de défense et de sécurité russe. Au micro de Corne de Gazette, elle répond à nos questions sur la crise ukrainienne. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre Instagram Corne de Gazette. Abonnez-vous, on attend vos réactions et questions. Vous pouvez également profiter de nos podcasts sur Spotify. Corne de Gazette Radio, la culture avec un grand C et un petit T, c'est tout de suite. Très bonne interview.